Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafomba.
Mali-France vers une rupture totale des relations. C'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Les relations entre le Mali et la France semblent se détériorer davantage chaque jour. Lundi dernier, 28 février, le président français a décidé de retirer tous les coopérants militaires français en fonction dans les différents ministères et au sein de l'état-major des armées. Cette décision des autorités françaises intervient 2 semaines après l'annonce du retrait définitif des forces Barkhane et Takuba du Mali. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette décision des autorités françaises? Quel est donc l'impact de ce retrait sur les relations entre les deux pays? Va-t-on vers une rupture totale des relations entre les deux pays? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons 2 invités avec nous, Dr Ali Tunkara, sociologue, Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera pour M. Ba. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette décision des autorités françaises?
Ok, merci beaucoup. Et je pense que la situation du Mali aujourd'hui, elle est assez complexe. Cette décision de retrait de la France, surtout de la France politique et militaire, et il faut quand même comprendre les enjeux et faire une lecture beaucoup plus pratique pour comprendre ce processus. Et après 8 à 10 ans de coopération militaire et de défense, nous devons nous interroger qu'est-ce qui nous a poussé à arriver à cette ultime décision. Ça, c'est la question. Maintenant, la réponse, il me semble que tout n'est pas encore linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un retrait définitif. Nous pensons que sur le terrain militaire, il y a eu des insuffisances. Et si nous évaluons depuis Serval jusqu'à Barkhane, en passant par Takuba récemment. Donc il faut le prendre avec beaucoup de prudence. Je crois qu'il y a eu des quiproquos sur des questions sur lesquelles on va revenir. Un, pourquoi en 2013, après la libération du centre du Mali, Kona, et l'avancée des troupes, pourquoi ces troupes ont été arrêtées à Kidal? Pourquoi l'armée malienne n'a pas été à Kidal? Ça, c'est le premier quiproquo. Deuxièmement, en 2014... lorsque le Mali a tenté de reprendre Kidal avec le Premier ministre Moussa Mara et les conséquences que nous avons connues, on a accusé la France d'avoir intervenu. Et là, on n'a pas pu le prouver, mais il y en a qui croient encore, des Maliens, que en 2014, la France a joué contre nous. Troisièmement, le processus même de mutation entre Serval, Barkhane et Takuba, beaucoup d'acteurs maliens pensent que ça a été fait sans réellement une concertation sécuritaire claire du point de vue de la souveraineté, troisièmement. Donc quatrièmement, les nouveaux défis actuels liés à cette accélération de cette crise diplomatique. Donc au regard de tout ce parcours, on peut acter qu'il y a une fracture et de la vision politique de la sécurisation du Mali, une deuxième facture du point de vue diplomatique et une troisième facture du point de vue sécuritaire. Donc à ce titre, on ne peut pas tirer une conclusion hâtive, dire que c'est fini. Moi, je crois que sur le terrain militaire, il y a une fracture, mais il faudrait analyser les conséquences pour le Mali et pour le Sahel parce qu'il y a un repositionnement qui va être fait. Donc tout n'est pas encore perdu. Il est possible qu'on puisse, avec un gouvernement élu, revoir un peu cette géopolitique pour qu'on équilibre un peu les choses. Voilà un peu ma première perception dans ce questionnement.
Docteur Ali Tunkara, quel est donc l'apport de ces coopérants militaires auprès du Mali?
Merci, Maïga. La question, je pense que ce serait très bien fait de rappeler les raisons qui sous-tendraient un tel rappel, parce que les autorités françaises elles-mêmes parlent plutôt du rappel. Donc il faut dire qu'un retour imminent ou tardif de ces coopérants militaires ne sert pas à exclure. Concrètement, quand on prend les différents états-majors, qu'on soit avec la garde nationale, l'armée de terre ou l'armée de l'air, et d'autres composantes également, les forces de défense et de sécurité du Mali, ces différents coopérants, ils sont dans un travail de monitoring, ils sont dans un travail de conseil, et à certains égards, ils sont même aussi dans la formation. Il faut aussi les différencier des Français aujourd'hui qui sont avec la mission européenne de formation EITM ou ECAP Sahel et ne sont pas concernés par la décision. Il s'agit uniquement des Français dans les différents départements ministériels qui ont été envahis, soit par le ministère de la Défense ou le ministère des Armées, soit par le ministère des Affaires étrangères de l'Europe, qui se trouve aujourd'hui dans nos différents départements de sécurité et de défense, qui sont concernés par cette décision.
Donc ces personnes sont là, pas sur la demande de l'État malien.
Et très souvent, quand on parle de coopération, parfois ce sont des amitiés ou parfois des demandes qui sont expressément formulées par les états-majors qui pourraient expliquer cette présence. Mais ce qu'il faut fondamentalement retenir, au-delà de connaître le nombre exact de ces Français, ils sont quand même beaucoup plus proches de ce qui se passe au sein de nos différentes corporations, à telle enseigne que, au-delà du conseil, du monitoring, du soutien, de la formation, beaucoup d'acteurs s'interrogeraient, est-ce que, pour les cas précis de la France par exemple, les Maliens, notamment militaires qui vont dans le cadre de leur formation d'application ou qui passent leur état-major, qui fréquenteraient même les différentes écoles comme Saint-Cyr, est-ce que ces Maliens ont-ils accès? Il n'y a pas une sorte de séquençage en termes de ce qu'on pourrait qualifier de confidentialité. Parce que si vous regardez un peu quand même, certains de ces coopérants, pas tous, sont au cœur de l'appareil sécuritaire. Cela pourrait également poser un problème de souveraineté. Mais je pense que l'idée aujourd'hui de ce rappel, on ne peut la comprendre que si seulement si on fait le rappel que M. Ba vient de faire. Le fait qu'aujourd'hui, entre Bamako et Paris, la bouillie diplomatique a eu une incidence sur l'ensemble de la présence française au Mali, y compris même les acteurs qui sont dans le développement. Ils sont quand même beaucoup de plus en plus réticents. Tous ceux-là qui soutiennent les initiatives locales des pairs à l'intérieur du pays, tous ces acteurs aujourd'hui qui sont dans l'éducation, tous ces acteurs qui sont dans le domaine de la santé, ne sont pas forcément concernés par ce rappel. Mais c'est quand même une scène, il ne faut pas oublier, parce que si vous prenez un peu l'Agence française de développement, ce coopérant relèverait quand même en grande partie soit du ministère des Affaires étrangères, soit du ministère de la Défense et de la Sécurité, ce qui est le cas des coopérants qui sont rappelés. Mais il y a une sorte d'interconnexion entre tous ces acteurs. Donc, naturellement, il n'y a rien d'étonnant dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir, si cette bouillie diplomatique continue à se perdurer, que les autres acteurs non sécuritaires, non défense, soient aussi concernés par ce rappel. Donc c'est le problème, il est vraiment complexe, il est sérieux. Mais est-ce que, à comment évaluer l'impact d'un tel retrait de l'appareil sécuritaire malien, c'est là que toute la question demeure, parce que les lectures également à ce niveau sont plurielles. D'aucuns vous diront qu'ils apportent quand même un soutien important, notamment toutes ces questions liées à la cybercriminalité, toutes ces questions liées à la prévue numérique. Nous sommes certes dans la reconfiguration de l'armée, mais cette restructuration de l'armée, elle est quand même loin d'être achevée. Donc ce sont aujourd'hui des acteurs qui ont une certaine ingéniosité sur le plan sécuritaire. Dans toute polémique politique, les militaires vous diront que voilà, ils se sont sympathisés à certains niveaux, ils se rendent même des visites. Même, il faut quand même aussi le rappeler, les écoles comme l'école de maintien de la paix, les différentes formations militaires, on a des coopérants français qui sont parfois même directeurs d'instruction ou directeurs adjugés, parce que grâce à ces coopérants également, beaucoup de fonds, le Mali arrive à mobiliser auprès de l'Union européenne, dans le cadre de la formation des éléments de force défense et de sécurité, même de l'institution pénitentiaire, parce que les dossiers sont certes conçus par le Mali, ils sont quand même portés en grande partie par ces coopérants qui arrivent un peu jouer sur leur appartenance à la France, qui arrivent même à un peu infliger certaines positions radicales ou hésitantes quant aux différentes formes de soutien apportées. Donc, il y a un rôle positif, incontestablement, que jouent ces différents coopérants aujourd'hui, dont le président Macron leur demande de rentrer, mais pas définitivement.
Monsieur Ba, vous l'avez écorché dans votre entame. Pouvez-vous nous rappeler les causes de ce divorce entre le Mali et la France?
Bon, j'en ai parlé à la suite des propos du docteur Ali Tunkara. C'est ce que je pense comme cause réellement profonde. Et d'abord, acte 1, il faudrait partir de l'action de Conan, c'est-à-dire en janvier 2013, où on a la France, en tout cas, à travers son intervention avec Serval, a empêché la progression des groupes dits insurrectionnels vers le centre et le sud du pays. parce qu'on ne pouvait pas savoir à quel niveau ils pouvaient atteindre, mais beaucoup pensaient que si on n'avait pas stoppé, et vu la fragilité de l'État à l'époque, ça allait être très difficile. Donc acte 1, le fait de ne pas pouvoir aller à Kidal, ça crée une rupture un peu, un blocage, ce qu'on peut appeler un peu le premier couac. Ça c'est un, en 2013. Le deuxième couac, c'est d'ailleurs même la difficulté de la lecture des opérations françaises par la partie malienne. On est passé de Serval, très rapidement vers Barkhane, et puis récemment à Takuba. Donc pour les gouvernants maliens, moi je pars de l'appréhension hein, et de la perception, tout ça a été fait dans un cadre clos, c'est-à-dire qui n'était pas réellement ouvert. C'est-à-dire les chefs d'État sont appelés et mis devant les faits. Donc cette mutation n'a pas été bien discutée, concertée. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est la lecture des accords. Vous savez, il y a deux types d'accords entre la France et le Mali. Il y a ce qu'on appelle l'accord de coopération, dont parlait tout à l'heure Tonkara, c'est-à-dire les conseillers, l'appui dans les ministères, la sécurité, la défense, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, tout ce qu'il y a comme mesure de prévention. Il faut reconnaître que la France et l'Union européenne ont aidé le Mali dans ce sens, quand vous regardez un peu ses projets et puis ses initiatives. Maintenant, il y a eu un accord de défense et par rapport à l'intervention militaire française. Donc séparons les deux, hein. Les gens confondent les deux d'ailleurs. Donc c'est le deuxième accord qui pose problème, parce que cet accord est arrivé à terme, et le Mali a très vite, en tout cas, dénoncé certains agissements. Ça c'est vraiment militaire, on ne peut pas, dans notre analyse, aller en profondeur, parce qu'on n'est pas quand même devant les événements. Donc à ce niveau, la partie malienne semble demander une relecture de cet accord pour donner une certaine légitimité de l'action malienne et ne pas être considéré comme un pays qui est envahi. Ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, souvenez-vous, il y a eu le truc de Bounty, où l'armée française a été accusée d'avoir mené une opération malheureuse dans la zone de Gandamia, qu'elle n'a jamais accepté de reconnaître. Il y a eu une enquête de l'aménagement qui a révélé effectivement qu'il y a eu une bavure et qu'il y a eu un bombardement des populations civiles. Là, ça n'a jamais été totalement clarifié et ça crée quand même, ça a laissé des traces. Et cinquièmement, cette évolution aujourd'hui de confrontation et de basculement des relations diplomatiques. Quand vous prenez tout ça, l'un dans l'autre, ça crée une crise. Mais attention, quand nous analysons le Sahel, le départ de la France va créer un vide. D'abord la couverture sécuritaire en termes de renseignements, en termes aussi de compréhension de la lecture géopolitique des groupes armés. C'est clair dans le gourmand, la partie malienne, il n'y a pas d'armée malienne aujourd'hui proche de la frontière. Si vous partez à partir de Gao, les premiers avancements de l'armée française, c'est-à-dire le plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau transfrontalier, c'est la base d'Indeliman qui a été détruite il y a quelques années, en 2019. Donc il faut aller à Ansongo et à Menaka pour trouver des soldats maliens. Ça veut dire qu'à Andromoukane et toute la partie frontalière, il n'y a pas de soldats. Donc il y a un problème à ce niveau. Le deuxième problème que ça va poser, c'est qu'aujourd'hui, les autres acteurs comme l'aménagement, comme l'UTM, ces acteurs ont la couverture de l'armée française. Donc, est-ce que ça va amener un chamboulement, un basculement? C'est là la question. Ce n'est pas seulement les conseillers. Le départ des conseillers va créer un vide, bien sûr, parce qu'il y a une expertise que ces conseillers apportent, qu'on les aime ou pas. Ils ont une expertise. Et chez nous, nous sommes un pays en construction, un pays en conflit. On n'est même pas en post-conflit. Donc, on a besoin de l'expertise de l'extérieur, comme disait tout à l'heure Tonkara. Moi, je pense que voilà quelques éléments complexe de confrontation, mais tout ça, ça peut être résolu sur un terrain parce que les militaires maliens et français n'ont jamais rompu malgré la crise. Et souvenez-vous qu'il y a un mois, moins d'un mois, il y a une opération dans la zone transfrontalière entre Barkhane et Takuba du moins et l'armée malienne, et il y a eu un effort sur ce terrain. Donc les militaires n'étaient pas dans ce jeu, c'est beaucoup plus politique. Mais maintenant, comment trouver la cohérence entre la vision politique des acteurs français, la vision politique malienne et des militaires, c'est là où vraiment ça devient compliqué et difficile.
Au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire maintenant que les accords de coopération entre les deux pays sont désormais caducs?
Non, on ne peut pas dire que c'est caduque, mais il y a une rupture. Le Mali a demandé une relecture. Et dans cette relecture, et je crois que les forces françaises qui opèrent au Mali avaient besoin d'une certaine latitude. C'est-à-dire, leur façon d'opérer, ça leur demande une certaine liberté dans l'opération. Il faut être dans l'action opérationnelle pour mieux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le niveau coercitif dans l'action militaire, le niveau stabilisation et le niveau normalisation. Ils ont des phases. Donc pour pouvoir actionner, ils ont besoin de certaines libertés. Ils n'ont pas besoin peut-être de demander une autorisation pour mener quand des groupes sont repérés dans certaines positions. Le Mali veut contrôler toute l'entièreté de son espace. Et là, vous voyez un peu ce que ça fait. Donc la France pense que le Mali l'empêche d'avoir une certaine liberté d'opération. Donc il y a un quiproquo à ce niveau. Le deuxième truc, ne nous cachons pas la vérité, l'arrivée des Russes change la donne. Parce que là, le Mali a un autre allié et le Mali a envie d'occuper le terrain, engager une offensive. Et la coopération entre ces Russes et ces Français n'est pas forcément facile. Donc c'est ce quiproquo qui a amené ces difficultés. Et là-dessus, je crois qu'il y a eu un gel et puis une incompréhension. Mais ça peut être compris dans un cadre où il y a une confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance entre les deux pays, tant qu'ils ne s'asseyent pas pour évaluer ce qui a été fait, ça aussi on ne l'a jamais fait, quelle est aujourd'hui l'évaluation de l'action de Serval au Mali? Quelle est l'évaluation de l'action de Barkhane et même de Takuba aujourd'hui? On n'a pas évalué sérieusement. Et quelle est, je dis bien, la perception réelle de cette évaluation pour avancer? Je pense que c'est ces complexités, ces difficultés qui ont fait que chacun est dans une position de rupture et nous sommes arrivés à ce que nous voyons faire tout de suite. Mais on a besoin peut-être d'un temps où le Mali va s'engager avec d'autres acteurs. Maintenant, on verra si ces acteurs permettent de contrôler la situation, d'éviter ce qu'on appelle un coup de poing dans le sable. Du point de vue militaire, ça veut dire engager des actions, mais ne pas pouvoir les stabiliser. Ça aussi, c'est dangereux parce que les groupes vont s'éparpiller et après revenir. Parce que quand vous prenez un tas de sable, vous donnez un coup de poing, le sable se dégage. Mais dès que vous enlevez la main, le sable revient. C'est là où c'est dangereux.
Docteur Ali Tunkara, M. Ba parlait tout à l'heure d'un vide. Selon vous, y a-t-il réellement un vide laissé par la France ?
Alors, c'est vrai qu'il y a des vides, hein, le militaire ne peut pas le nier, mais je pense qu'il faut citer également ces vides à partir de trois points majeurs. Le premier point, déjà, si vous prenez la partie dite de l'Iptako-Gourma, dont M. Ba faisait allusion, c'est là-bas que l'essentiel, les opérations militaires menées par la force Takuba, ou par la force Barkhane en l'occurrence, étaient engagées. Est-ce que aujourd'hui, au regard de différentes opérations qui sont en cours, que ce soit Kélétique 1, 2, voilà, Maliko, est-ce que l'armée malienne est-elle effectivement bien outillée en termes d'hommes, en termes d'équipement, pour se substituer à ce vide qui va être laissé par l'armée française, notamment dans la partie du détroit frontière? Ça, c'est une question quand même essentielle qui reste posée. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier aussi, s'agissant toujours de l'effectif, je le disais sur ce même plateau, si vous prenez rien que la région de Tombouctou, elle est plus grande que toute la Côte d'Ivoire en termes de superficie. Or, le Mali n'a qu'une seule région militaire dans la région de Tombouctou. Donc clairement, il y a un problème d'effectif qui va se poser. Et au-delà du numérique, il y aura forcément aussi un problème d'équipement. Beaucoup de nouveaux équipements ont été acquéris, obtenus de la part de la Russie. Mais le comparer à ceux qu'a la force Barkhane française, l'écart, il est quand même pharaonique. Il est extrêmement important, l'écart. Deuxième élément qui me paraît aussi important par ce vide qui va être laissé par l'armée française, c'est d'abord la question de coopération militaire entre les États. On sait qu'il y a plus de trois mois, l'armée burkinabé est quasi absente de parties frontalières au Mali. Donc ça pose un problème de coordination des efforts entre les deux armées. De même également, depuis la bouille diplomatique entre Bamako et Paris, on occulte quand même très souvent que Niamey s'est invité dans le jeu. Telle enseigne que toutes les opérations conjointes qui étaient menées par le Mali, le Burkina et le Niger se sont vues suspendues. Donc, dans la foulée, le Niger et le Burkina avaient signé un accord militaire entre les deux pays pour lutter contre les groupes radicaux violents dans la partie dite des trois frontières de l'Iptako-Gourma sans le Mali. Donc, la nouvelle donne avec ce retrait prématuré de la France qui souhaiterait se positionner davantage sur le territoire nigérien, on va assister à une paralysie en termes d'action conjointe. Laquelle paralysie a pour nom, voilà, le militaire malien. Et en dépit de tout ce qu'il consente comme effort aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le groupe radicaux violent, ils vont repousser l'ennemi. Maintenant, l'ennemi a un point de chute quand même, parce que le point de chute va être le Niger ou le Burkina. Le Niger n'étant plus en coopération militaire avec le Mali, la France étant aussi un soutien indéfectible à l'armée nigérienne aujourd'hui, difficilement on peut imaginer que l'armée malienne, dans un court terme, pourrait agir de concert avec l'armée nigérienne dans les parties dites de trois frontières. Donc, ce qui va créer forcément un vide lorsque les groupes vont être dispersés. De même également, à comment aujourd'hui comprendre l'attitude de cette même France qui peine à s'entendre avec les autorités maliennes, qui a intensifié ses actions militaires avec le Burkina, une fois que cette bourrée diplomatique a atteint son niveau le plus élevé. Donc, clairement, cette bouillie diplomatique aujourd'hui entre Bamako et Paris pourrait même nous assister à une fin irrévocable de l'efficacité du G5, notamment s'agissant de sa force conjointe. Parce que les armées sont censées agir de concert, mais lorsque la France reste une sorte d'interface entre les armées voisines, ça pose un sérieux problème de coopération, ça pose un sérieux problème de partage d'informations, ça pose un sérieux problème de maillage territorial de part et d'autre. Donc, vous voyez, le troisième élément qui me paraît également important, on ne le dit pas au grand public. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, la force conjointe du G5 Sahel, elle n'est pas que soutenue par l'Union européenne, mais elle est entièrement, je dis bien, elle est entièrement à 100% portée par l'Union européenne. Laquelle l'Union européenne est incarnée par la France. N'oublions pas quand même, en 2014, pour que cette structure puisse avoir corps, c'est un général français, dans au siège de l'Union européenne, qui a plaidé pour que l'Union européenne accorde son soutien au G5 Sahel. Et même au-delà de l'aspect militaire, beaucoup d'équipements qui ont été, à travers des structures comme Civupol, à travers des structures Alliance France, à travers des structures comme Expertise France, lesquelles structures appartiennent quand même au ministère de l'Intérieur français, qui sont le pourvoyeur en termes d'équipement pour les armées sahéliennes. Toutes les formations aujourd'hui qui sont assurées au nom du G5 Sahel sont entièrement prises en charge par l'Union européenne, portée par la France. Donc pour vous dire que, au-delà de le départ ou le retrait de ce coopérant, les enjeux sont extrêmement énormes. Aucune puissance militaire ne peut aujourd'hui s'assurer qu'à elle seule, elle peut mettre un terme à cette action terroriste sans bénéficier de la coopération et même de la complicité de ses armées sœurs. Donc ça, c'est là que moi je suis très 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 dubitatif quant au sort qu'on pourrait réservé à ces différentes localités aujourd'hui en proie aux attaques terroristes avec un tel départ prématuré de l'armée française. Je reconnais beaucoup d'efforts sont entrepris par les différents états-majors de la République du Mali. Et quand on regarde aussi les différentes opérations dont il était question tantôt, sont des actions entre autres qui permettent de nourrir l'espoir. Mais au-delà de l'espoir, a mis l'accent sur un point extrêmement important. Si vous ratissez derrière, s'il n'y a pas d'action de développement, s'il n'y a pas d'action de résilience, s'il n'y a pas d'action susceptible de réduire les tensions communautaires, tous vos efforts auront du mal à obtenir les résultats escomptés. Malheureusement, la Russie, elle est super puissante sur le plan militaire, mais franchement, si vous demandez $1 milliard à la Russie pour booster les efforts de communauté, pour réduire les violences communautaires, je pense que la Russie n'est pas prête à débourser un centime. Donc, vous voyez, ça, ce sont des enjeux. Il faut être lucide dans l'analyse. Quand j'entends dire la France ne sert à rien, bon, je dis aux gars, est-ce que vous savez comment les ONG sont financées? Et savez-vous comment les initiatives locales de paix sont supportées? Il faut être très, très, très objectif dans l'analyse, sans compter cette communauté malienne également qui vit en France. Son apport dépasse largement les différents fonds qui sont donnés par les partenaires.
Toujours sur la même question, ce vide-là actuellement, est-ce qu'il est comblé?
Il est comblé rapidement, mais toute la difficulté réside dans la temporalité, justement. Aujourd'hui, incontestablement, il y a trois grandes opérations. On va parler un peu militaire. Il y a un fuseau nord qui démarre à partir de Nara, qui couvre jusqu'à la région de d'Ansongo, enfin, c'est la nouvelle région, jusqu'à la région, justement, de Menaka. Il y a également un fuseau centre qui débouche à partir de Sévaré, qui couvre aussi même une partie de la région de Ségou. Il y a également un fuseau est qui démarre à partir de Sigasso. Ça, ce sont des efforts aujourd'hui qui font que effectivement, la présence de l'armée malienne, elle est sans appel sur le terrain, et dans la localité dite sensible. Mais en dépit de cette présence marquée, l'armée malienne qui est à s'allier, n'oublions pas que les causes profondes de l'insécurité ne sont pas que militaires. Parmi ces causes profondes, moi je trouve que l'action militaire, à peine si elle peut combler 20-30% des attentes. Et si vous allez dans ces différentes localités aujourd'hui pour les attaques terroristes, les populations vous diront que elles ont un problème de justice. Elles ont un problème d'accès à ce qu'on appelle les services sociaux de base. Elles ont un problème justement de sentir même la question de l'utilité de l'État. Et que fait l'État concrètement aujourd'hui pour que, par exemple, on prend juste le cas de Gao, il y a un hôpital quand même qui est pris en charge par l'armée française, où ils ont des médecins, les militaires français parmi eux. Ces médecins soignent les populations gratuitement, et certains blessés graves même des éléments de forte défense de la sécurité de la République du Mali sont pris en charge par ces mêmes médecins. Et regardez également toute l'économie locale qui dépend quand même. Je ne dirais pas que le fait que les gens dépendent des partenaires qui doivent rester éternellement. Mais si vous regardez aujourd'hui toute cette économie qui s'est greffée de ces missions étrangères, que ce soit l'AMINISMA, la force Barkhane française, c'est quand même des questions qu'il faut s'interroger. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme moins financé qui pourrait permettre à ces populations qui dépendent de ces forces partenaires de reprendre ou de continuer à exercer une activité leur permettant ne serait-ce que d'asseoir leur propre survie. Mais dans le même temps, il faut vraiment être réaliste. Bah, le disait tantôt, si vous voyez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pays contributeurs au sein de l'AMINISMA, ces pays ont la ferme conviction que la France les protège. Vous allez voir, au mois de juin prochain, beaucoup de pays vont hésiter avant d'envoyer des troupes parce qu'ils vont s'interroger, est-ce qu'aujourd'hui au regard de cette difficulté entre déjà les armées partenaires, nigériennes et maliennes en l'occurrence. Est-ce que allons-nous envoyer nos hommes et des femmes dans une mission d'interposition, d'autant plus que l'environnement sécuritaire est très hostile? Ce sont des questions, entre autres, qui vont être certainement posées. Est-ce que la Russie est-elle capable de porter le dossier MINISMA en juin prochain et convaincre les États-Unis qui sont très réticents à ce que les missions onusiennes soient financées? Or, ce sont les gros pourvoyeurs, plus de 60% du budget alloué à la MINISMA proviennent des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie est-elle capable, au regard de son rapport très délétère avec les États-Unis, de les convaincre de continuer à soutenir les missions onusiennes au Mali? Voyez, il y a tellement de dangers. Quand je vois les gens sur les boulevards, sur les réseaux sociaux, je les comprends, mais sans forcément les légitimer.
Monsieur Bas, sur quel partenaire comptez aujourd'hui pour remplacer la France et ses alliés?
Moi, je pense que vraiment, Tunkara a pratiquement tout dit. Hein. Il a brossé globalement. Bon, c'est-à-dire, si on regarde la dernière configuration des relations entre le Mali et les autres, aujourd'hui, quand même, la crise franco-malienne, sur le plan diplomatique et sécuritaire, est actée. Et qu'il y a beaucoup de points de rupture entre les deux pays, mais je ne dirais pas irréversible. Il y a vraiment des ruptures. Et en politique, en diplomatie, rien n'est irréversible. Je crois que le Mali, si on suit l'actualité, ces derniers temps, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Iran. Et il y a aussi les relations avec la Turquie. Je pense que le Mali va tenter de diversifier. Comme on dit, les États ont des intérêts. Et en tant qu'État souverain, rien n'empêche aujourd'hui au Mali d'aller sur d'autres horizons. Moi, je vois l'horizon de la Turquie, qui a une très bonne technologie sur les drones. Le Niger, aujourd'hui, est très intéressé. Et puis l'Iran aussi, et l'Inde, donc les pays du tiers-monde. Donc on va aller, mais la question principale, comme l'a dit Tunkara tout à l'heure, ce vide. Et d'abord, si tu prends seulement le Gourma central, qui est la zone des trois frontières, qui est l'une des zones les plus dangereuses aujourd'hui, où tout est concentré, c'est-à-dire les forces Barkhane et Takuba, et les armées des pays du G5 Sahel, comme il a dit tout à l'heure. Déjà, je dis bien, il y aura un trou d'air. Ça, quand même, on ne peut pas le nier. Hein. Et une force comme Barkhane, qui a une capacité aérienne, beaucoup d'hélicoptères, des mirages, je dis bien, et qui contrôle, qui a un renseignement à partir des Américains aussi, il y aura un vide. Maintenant, on ne peut pas dire que le Mali ne peut pas trouver des moyens pour atténuer. Mais maintenant, la question principale qui va se poser, est-ce que, je dis bien, ces pays comme la Turquie et le Mali a des ressources suffisantes pour pouvoir payer des avions, des drones aujourd'hui? La question se pose. La deuxième question est, est-ce que la Russie, en tant qu'appui aujourd'hui, mais qui appuie sur le terrain sécuritaire, mais qui n'est pas dans le domaine, comme l'a dit tout à l'heure Tonkara, sur le terrain économique, qui est important, parce que quelles que soient nos avancées, si on n'a pas la capacité de contrôler militairement des bases militaires pour empêcher ces gens de venir, hein, et deuxièmement, de commencer à ramener l'État. C'est-à-dire l'État, si je dis l'État, les structures, ce qu'on appelle les structures de sociaux de base, essentielles, la santé, l'éducation, l'économie rurale, ça va être difficile que les populations se retrouvent parce qu'il y a assez de déplacés, il y a assez de réfugiés et tout est concentré à Bamako. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles le Mali, même avec la Russie, la Russie ne viendra pas d'elle-même comme ça. Vous savez très bien ce qu'on raconte. Les États-Unis ont fait
une étude. Mais effectivement, le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, évoquait lors d'une de ses sorties la Chine et la Russie comme partenaires. Que pensez-vous de ces deux pays-là?
Non, c'est des pays de mastodontes qui peuvent apporter beaucoup de choses. Mais la question qui se pose, c'est que aujourd'hui, l'implantation des troupes russes, qu'on les appelle Wagner ou pas, de toutes les façons, ils sont là, ces gens, ils sont sur le terrain. Et vraiment, Tunkara a expliqué les fuseaux, il connaît très bien la répartition de ces fuseaux-là à partir des opérations militaires. Les trois zones dont il vient de parler, de Sikasso, la zone ouest du pays et puis le centre, pour aller sur le nord. Mais tout ça, ça va demander des moyens. Et ce n'est pas gratuit. Ça, c'est un. Deuxièmement, et la Chine n'est pas encore et peut-être implanté comme les Russes. Mais est-ce que le Mali ne va pas dépenser? Et comme nous sommes un pays limité du point de vue ressources, on n'est pas pauvre, tant qu'on les pense, on a des potentialités. Mais si les potentialités ne sont pas bien organisées, si les ressources ne sont pas bien réparties, si les indices de développement sont faibles, nous sommes pauvres. Parce que nous avons des potentialités mal exploitées et nous n'avons pas les moyens pour valoriser et apporter une valeur. Donc à ce titre, nous devons monnayer nos ressources minières pour pouvoir payer. Là, ça va être un problème. Le deuxième problème que ça va poser aussi, c'est que ce n'est pas tous les pays qui vont aller sur le terrain sécuritaire, engager des troupes. Il y a beaucoup de pays qui ne vont pas le faire, mais ils vont donner du matériel. Donc, si nos armées ne sont pas encore très bien préparées, nous sommes en phase de restructuration, nous avons besoin d'appui, de formation. Si tout ça n'est pas bien équilibré, nous risquerons de payer un prix. Et surtout, le troisième problème le plus complexe aujourd'hui, quelle est notre position par rapport à la CEDEAO? Nous sommes en conflit. Nous sommes toujours sous embargo. Nous avons vu aussi la position du Niger. Pour ceux qui ont écouté le président du Niger il y a 4 ou 5 jours, lors de la rencontre des cadres, il a expliqué que le Niger est un État qui est à la frontière, qui se bat, c'est organisé, et puis ils prennent tout ce qu'on les apporte. Si vous voyez aujourd'hui ce que les Américains ont apporté au Niger, en termes d'implantation, en termes de financement, alors que c'est le Mali qui avait bénéficié ça il y a quelques années, bien avant la crise de 2012, hein. N'oublions pas que depuis 2004-2005, il y a eu l'opération ACRI, African Crisis Response Initiative, dans le centre du Mali, et que les Américains ont quitté le nord du Mali pour aller s'installer au Niger. Donc nous avons perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faudrait reconstituer ce qu'on appelle le verbatim de l'univers sécuritaire au Mali et au Sahel. Deuxièmement, il faudrait voir quel est l'état aujourd'hui de nos légitimités qui sont les derniers maillons sur le terrain. Est-ce que ces gens même veulent que l'État retourne? Est-ce qu'aujourd'hui, je dis bien, le fait que l'État n'est pas là depuis 10 ans, le fait que les enfants n'ont pas droit à l'école, le fait que les gens ne connaissent même pas l'État, le fait qu'on a subi des pertes énormes et que l'administration a quitté, est-ce que c'est faisable, quels que soient les moyens qu'on nous donne, est-ce qu'on peut aller sans négocier? Et le troisième problème, c'est le croisement des travaux de recherche. Aujourd'hui, quand vous analysez toutes ces recherches, tout le monde dit qu'il faut négocier. Mais est-ce qu'il faut négocier tout de suite? Je dis bien. Ou bien il faut que les rapports de force changent un peu et qu'on ait au moins le terrain pour négocier. Voilà des questionnements vraiment essentiels sur lesquels, ça, ce n'est pas l'extérieur qui nous donne, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous avons la capacité d'apporter la réponse? Est-ce que nous pouvons sortir de ce qu'on appelle les rentiers des crises? Il y a beaucoup de gaspillage aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études. Est-ce que le Mali s'en sert très bien? Est-ce que nous avons des stratégies qui nous permettent aujourd'hui d'engager le dialogue? Nous-mêmes, hein, après la conférence nationale de 2017, après le dialogue national, le dialogue inclusif de 2019, après les assises, la transition, après maintenant les assises nationales. Donc nous avons des outils, mais le problème qui se pose, qu'à chaque étape, nous diversifions. Est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, il n'est pas temps qu'on évalue tout ça, qu'on ait notre propre stratégie et que les autres soient en appoint sur le terrain sécuritaire. Maintenant, il y aura quand même des vides, il y aura des difficultés, il y aura aussi des retours. Et là, c'est la stratégie militaire. Il est difficile à ce stade, sans encore attendre le temps, de se projeter et d'avoir une idée claire.
L'autre interrogation sur la question, c'est la situation en Ukraine. Est-ce qu'elle peut changer quelque chose dans la relation entre le Mali et la Russie aujourd'hui ?
Bien sûr, elle va changer quelque chose. La situation en Ukraine va complètement reconfigurer les relations mondiales. Ah, ça, y aura une fracture terrible. D'ailleurs, ça a commencé entre la Russie et l'Europe, c'est-à-dire, je parle de l'OTAN, de l'Occident, les Occidentaux. Et aujourd'hui, avec les sanctions, le fait que la Russie va intervenir au Mali avec quelques moyens, il y aura un impact. Parce que les banques, le système financier, économique, la Russie va être perturbée à moyen terme, peut-être pas à court terme. Donc cette question de l'Ukraine est une autre configuration géopolitique qui va entraîner une déflagration mondiale. Là, moi, je pense que dans un proche avenir, on pourrait voir un tarissement des ressources et la Russie pourrait peut-être se limiter sur le terrain militaire. Et si on n'a pas d'appui économique, comme l'a dit tout à l'heure Tonkara, nous risquerons d'avoir des vides. Et comme nous avons besoin du retour des populations, nous avons besoin du retour de l'État, nous avons besoin du retour des services, nous avons besoin du retour de la justice, nous avons besoin du retour de tout ça, la situation en Ukraine va amener à une reconfiguration parce que les pays européens étant menacés vont se reconcentrer sur leur propre sécurité et nous ne serons plus leur priorité.
Ali Tougara, je vous repose la même question. Quel impact a la crise entre la Russie et l'Ukraine sur le Mali ?
Non, c'est vrai que quand les grandes puissances s'affrontent naturellement, l'ordre mondial va être impacté positivement ou négativement. Mais tout va dépendre de notre capacité à pouvoir se positionner. Déjà, si vous avez suivi avec une attention particulière, le dernier vote qui a lieu à l'Assemblée des Nations Unies, le Mali a quand même voté en faveur de la Russie, donc contre les sanctions qu'on devait infliger à l'État de la Russie. Tout ceci va aussi interroger les partenaires classiques du Mali, qui sont les pays européens, le Canada, les États-Unis, à revisiter leur positionnement sur l'échec militaire, même politique malienne. Mais une chose est sûre, hein, c'est vrai, l'Ukraine pourrait nous paraître lointaine, mais elle ne l'est pas. Si vous vous rappelez, quand même, lors des attentats du 11 septembre en 2001 aux États-Unis, quelqu'un de Bamako ou de Gao, il se voyait tellement distant de ces attentats, mais aujourd'hui, on est au cœur de cette action terroriste. Mais ce qui me paraît beaucoup plus urgent au-delà de la question ukrainienne, ce sont ces sanctions de la CEDEAO. Parce que un pays a beau être efficace, a beau être malin en termes d'élargissement des partenariats. Je vais revenir sur les partenariats, c'est important. Et si vous regardez un peu aujourd'hui les actions militaires qui sont en cours, faire le parallèle avec les recettes que l'État malien était censé les obtenir au courant janvier, vous n'avez pas besoin d'être un économiste. À peine si la moitié de ces recettes ont été obtenues. Donc clairement, dans la durée, ça va forcément mener l'État du Mali à réduire ses efforts en cours, soit d'aller carrément vers une autonomie financière en allant vers sa propre devise. Ouais, donc, ce sont des réalités auxquelles je me demande si l'élite militaire les prend avec rigueur, toute la rigueur qui nécessiterait ces réalités. Maintenant, s'agissant de l'élargissement du partenariat, c'est quelque chose d'indispensable. Mais dans un élan d'élargissement du partenariat, pour revenir un peu sur la crise ukrainienne, nous devons toujours nous interroger en toute objectivité sans succomber au sensationnel. Est-ce qu'aujourd'hui, la présence des groupes radicaux violents, en quoi cela pourrait impacter la Russie du point de vue physique ou du point de vue même de terreur? Si la Russie venait aujourd'hui à changer la donne dans le contexte malien, est-ce qu'avons-nous des sociétés civiles fortes en Russie, des médias forts qui peuvent ramener le président Poutine à revoir sa touche au Mali? Ouais. Quand vous élargissez les partenariats, tous ces aspects sont importants. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, la question sahélienne, notamment malienne, pourrait même compromettre la présence ou la réélection du président Macron, parce qu'effectivement, la France, elle est quand même dotée de sociétés civiles très fortes, des médias qui peuvent inquiéter l'élite politique au pouvoir. Donc, la Chine, par exemple, vous prenez la Chine comme partenaire, si elle déconne, enfin, le terme un peu vulgaire, mais si la Chine venait à ne pas honorer les engagements dont elle a fait l'objet, et qu'est-ce que le Mali a en termes de pression, de moyens de pression, pour qu'elle puisse revoir sa copie, parce qu'on sait quand même que les sociétés civiles chinoises sont tout à fait, en tout cas, elles sont misélées, de même également les médias sont sérieusement contrôlés. Dans l'élargissement du partenariat, ce sont des aspects, je pense, auxquels ce que nous assistons ne nous donne pas l'impression qu'on en tient compte sérieusement. Je ne suis pas du tout pro-français, mais juste il est question de comprendre que élargir le partenariat, mais ces deux éléments sont extrêmement importants en géopolitique. Est-ce que le partenaire en face, quel moyen, le jour où il ne va pas nous donner satisfaction, on peut l'exercer à son encontre? Et on peut l'usiter, ce moyen, à son encontre? Ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui on est dans une telle réflexion, dans une telle pensée réflexive, hein, parce qu'on est beaucoup plutôt, on ne voit que les actions militaires, tout en oubliant que même la France, quand elle venait, ça allait quand même très bien avec la force Serval. Voilà, mais lorsque les différentes transformations de M. Bafé à Lison, de Barkhane à la force Takuba, il y avait quand même des soucis. Mais nous aussi, on n'a pas puis utiliser à temps ces différentes insuffisances afin de ramener la France justement sur ses engagements initiaux. Mais aujourd'hui, grâce à une société, à une classe politique française quand même forte, le président Macron est obligé de revoir sa copie au Mali. Grâce à des médias français, il y en a quand même qui sont indépendants, même si tous ne le sont pas, mais si vous prenez des médias comme Mediapart et d'autres là, Canard Enchaîné, ils sont difficilement corruptibles. Or, cette possibilité vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, elle est quand même quasi nulle, vis-à-vis même de la Turquie. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très attention de comprendre ces dimensions de proximité en termes de menaces, au-delà de cette dimension de proximité, de comprendre également ces dimensions de contre-pouvoir une fois que le partenaire ne donne pas satisfaction. Mais je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je suis d'une chose. Dans 6 mois, dans 1 an, si des actions qui vont être menées par les instructeurs ou par les coopérants russes ne vont pas dans le sens de l'élite militaire malienne au pouvoir, quels moyens cette élite a objectivement pour contraindre la Russie à revoir sa copie? Ça, ce sont des aspects qu'il faut vraiment les intégrer quand on est un bon analyste. Voilà. Mais je pense que ce travail, il devait être fait par le ministère des Affaires étrangères, par les différents états-majors, même s'ils le font. En tout cas, ce que nous observons nous donne la légitimité de dire que ce travail n'est pas fait ou il est très mal fait.
Alors, il ne reste que 3 petites minutes avant de clore cette émission, le temps de faire un dernier tour de table. Les quiproquos s'intensifient de jour en jour et la situation se détériore davantage entre le Mali et la France. Comment aujourd'hui consolider les relations entre les deux pays? Y a-t-il une possibilité, M. Ba?
Il y a toujours des possibilités entre les États. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les États ne manquent jamais de stratégie pour se retrouver. On a vu toutes les crises mondiales se sont terminées sur des tables de négociation, même la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette rupture, elle n'est pas définitive. Elle est vraiment diplomatique. Elle a des conséquences pratiquement sur nos relations et les tournures font peur parce que lorsque des coopérants même sont annoncés. Moi, je pense qu'il faut attendre aussi que nous soyons patients et qu'un régime élu au Mali puisse aussi revenir. Parce que tout ne peut pas être réglé dans la transition. La transition doit définir les grandes lignes. Il y a quelque chose quand même, je terminerai en disant, au Mali, on a besoin de trouver un cadre, une stratégie claire pour pouvoir avancer. Il y a trop d'interventions. Vous voyez un peu, même sur le terrain de la recherche, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent au Mali. Et quand vous croisez ces études et ces travaux, vous n'arrivez pas à trouver quelle est la porte d'entrée. Donc il faut que le gouvernement trouve au niveau institutionnel une porte d'entrée. Hein. Deuxièmement, il faut que nous diversifions, c'est vrai, et que nous rationalisions cette diversification. Et troisièmement, il faudrait donner la parole aussi aux populations pour que les accords locaux et toutes ces interventions de la société civile soient dans un cadre rationnel, dans l'intérêt du Mali et des citoyens maliens.
Pour M. Ba, la rupture n'est pas définitive. Selon vous, Dr Ali Tunkara, comment établir donc le dialogue aujourd'hui entre le Mali et la France?
La bonne nouvelle, les autorités maliennes restent quand même très ouvertes au dialogue. Toutes les prises de parole constituent un témoignage éloquent à cet effet. Mais dans le même temps, je pense aussi quand même au-delà de cette brouille entre les deux parties en présence, la France et le Mali, et il me paraît aussi important pour le cadre de la société civile malienne de s'intéresser à ce qui se passe aussi entre les deux pays, parce qu'on a quand même des parents qui sont de part et d'autre, on a des connaissances. La France, certes, a commis des péchés dans son agir au nord du Mali, et au Mali de façon générale, mais au-delà de ces péchés, du moment où le dialogue reste ouvert et sincère, naturellement, on pourrait espérer que ce retrait ne va pas se perdurer dans le temps.
Merci beaucoup, et c'est sur ces mots de Dr Ali Tunkara que prend fin cette émission du Grand Dialogue. Grand merci à nos invités, M. Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Dr Ali Tunkara, à la régie son et vidéo, il y avait Salim Diouara et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga, merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.